France Culture. France Culture, Chrétien d'Orient, Ulysse Maness.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous ne rêvez pas. Vous n'avez pas entendu le générique habituel, ni la voix familière de son animateur historique. C'est normal. Et pour cause. Une nouvelle saison de Chrétien d'Orient commence aujourd'hui. Un nouveau chapitre d'une aventure radiophonique, après près de 15 ans, et j'ai l'honneur, un peu impressionné et très heureux, d'en être le nouvel hôte. Pour cette première émission, je n'ai pas invité quelqu'un, mais celui sans qui ce passage de flambeau serait impossible et impensable, celui qui a sillonné le Tour Abdine, les montagnes kurdes du Hakkari, les routes de la soie, les chemins d'Éthiopie et l'île de Chypre, celui qui a recueilli des centaines de voix, des archives sonores précieuses, 392 émissions, celui qui a ouvert la route, le micro et la porte des monastères. Cher Sébastien de Courtois, bienvenue chez vous, à Chrétien d'Orient.
Bonjour Ulysse Maness, merci de votre accueil.
Pouvez-vous nous dire d'où vous nous parlez, Sébastien, aujourd'hui ?
Alors, je vous parle du Kazakhstan, en Asie centrale, un pays, voilà, à la confluence de beaucoup de problématiques actuelles dans un monde en perpétuel mouvement. Un poste, voilà, qui est très intéressant et qui me permet de prendre un peu un angle différent sur l'histoire de nos chères communautés chrétiennes d'Orient.
Sébastien, comment vous vivez ce moment un peu étrange où vous devenez l'invité de votre propre émission ?
Bah écoutez, c'est un honneur que vous me faites, un plaisir de vous retrouver, de retrouver tous nos auditeurs qui sont attentifs à cette émission, une émission qui est très précieuse au sein du service public, qui permet de porter la voix de toutes ces communautés chrétiennes d'Orient que nous n'avons pas cessé de valoriser, de mettre en avant pour mieux comprendre les enjeux de leur présent, tout en nous intéressant passionnément à leur histoire, que ce soit la culture, que ce soit la littérature, que ce soit la spiritualité, les domaines de l'archéologie. Enfin, c'est un monde passionnant qui s'accroche à ses lores et ses monastères dans les coins les plus reculés du Proche et du Moyen-Orient.
Sébastien, alors rassurez-vous, nous n'allons pas faire une émission de bilan de votre vie, mais je souhaiterais quand même vous entendre dire quand même quelques mots sur le jeune Sébastien de Courtois. Dans L'Ami des Beaux Jours, l'un de vos récits romans, vous évoquez Toulouse, le Toulouse de votre enfance, la guerre de Yougoslavie, l'amitié, l'amour. Et dans cette marmite, vous pouvez nous dire comment est né votre intérêt pour les mondes orientaux ?
Alors, il est né un petit peu par hasard, comme beaucoup de choses dans la vie. Hein. Parfois, on a des chemins que l'on ne comprend pas tout de suite, mais qui prennent tout leur relief et leur dimension des années après. Un premier voyage que j'ai fait à la toute fin des années 90 dans des coins reculés de Turquie, la Turquie orientale, où j'ai découvert par hasard ces communautés chrétiennes d'Orient attachées au rite syriaque. Donc nous sommes dans la région du Tour Abdine, l'église syriaque orthodoxe, et je suis tombé en amour devant ces monastères et ces endroits reculés où s'entretient encore la liturgie dans la langue araméenne, hein, dans cette langue syriaque, qui est une langue qui a eu une formidable expansion par la littérature, la philosophie, l'histoire, dans les tout premiers siècles du christianisme. Et ce qui m'a fasciné, c'est la persistance de ces communautés, donc quelques milliers de personnes, dans des montagnes, des monastères qui avaient des murs, et qui ont toujours des murs particulièrement épais. Quelques moines, un évêque, des villageois, des paysans qui entretiennent ce rameau syriaque de cette grande aventure qu'a été le christianisme oriental. Alors c'est une épopée personnelle dans un premier temps que j'ai réussi à vous évoquer Toulouse, effectivement là où j'ai fait mes études, qui a réussi à se transformer en une passion universitaire. Ensuite, avec ce qu'on appelait à l'époque un DEA, un diplôme d'études approfondies, donc sur l'histoire de la toute fin du 19e siècle de ces communautés dans le vilayet de Diyarbakir, et une histoire qui m'a passionné à titre personnel. Ensuite, il m'a semblé très important. Donc nous sommes donc au début du 21e siècle, 2001, 2002, 2003, donc par plusieurs voyages que j'ai pu effectuer, donc ce qu'on appelle des terrains pour nourrir un travail universitaire. Et ensuite, il m'a semblé très important, sinon essentiel, d'utiliser d'autres outils, notamment les médias, la presse écrite, les reportages, la radio, la télévision, pour faire connaître ces communautés et faire comprendre leur désir d'attachement à ces territoires, à ces régions qui ont beaucoup souffert dans le passé et qui continuent aussi de souffrir à maints égards actuellement, dans le temps présent. Voilà, donc nous étions à une époque qui peut nous sembler lointaine, mais qui ne l'est pas tellement, bien entendu, au regard de la grande histoire. Mais nous étions avant les grands exils qui ont été d'abord l'exil des chrétiens d'Irak, puis ceux des chrétiens de Syrie.
C'est ça, vous avez raconté d'ailleurs cet exil tragique. J'y reviendrai juste après, mais si vous deviez tracer une carte de vos routes orientales, à main levée, là, comme ça, ça commencerait sans doute par Istanbul, et ensuite...
Ah bah c'est une carte absolument phénoménale, parce que c'est la moitié du monde connu, d'une certaine manière. Le christianisme oriental a répandu des rameaux de chrétienté jusqu'en Chine. Donc j'ai fait, après la Turquie, donc Istanbul, bien entendu, hein, qui est le centre de ce monde, avec l'un des grands grandes personnalités de notre époque, qui est le patriarche écuménique de Constantinople, mais aussi d'autres communautés orientales, l'église chaldéenne, donc les syriaques orthodoxes, les arméniens, bien entendu. J'ai essayé de sillonner, de retrouver les traces de tous ces christianismes, mais toujours avec le souci de savoir ce qu'il en restait aujourd'hui. Donc je suis allé jusqu'en Chine, sur la trace des Nestoriens, par exemple. Déjà un passage en Asie centrale avec un voyage en 2004-2005. La Chine, avec cette formidable épopée d'un christianisme encore méconnu, hein, qui était de langue perse, certainement, iranienne. Qui s'est acculturé avec des cultures d'Asie centrale, avec la culture chinoise d'une certaine manière, et dont nous retrouvons des traces dans les récits de Marco Polo, de Guillaume de Rubruck au XIIIe siècle. Je suis allé aussi en Éthiopie, n'oublions pas la corne de l'Afrique, avec le christianisme abyssin, et bien entendu l'Égypte avec les Coptes, tout le Proche-Orient, que ce soit le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Arménie, le Caucase, la Géorgie, enfin tous ces territoires où brillent encore ces lumières d'Orient.
Je lis un passage d'un de vos livres, « Sur les fleuves de Babylone, nous pleurions », qui est le récit de votre périple urgent au Kurdistan irakien après les drames de 2014, notamment à Mossoul, Erbil, Karakoche et Alkosh. Alors voici le passage. « Être d'Orient ne s'improvise pas. Il faut s'en donner la peine. » Se salir les mains dans le cambouis de l'histoire. Cette balade sur les rives de la mémoire s'achève. Sur le mont Islo, le sentiment de tranquillité que l'on ressent dans ces espaces est désormais sans égal. Un retour au désert, un horizon de cendres. Sébastien, est-ce que je peux vous poser une question un peu de classe préparatoire? Vous pouvez me faire une explication de texte?
Bah, le mont Islo, c'est le Tour Abdin, donc c'est cette montagne, cette barrière qui est dans la continuité du Taurus. Quand on arrive de Syrie, imaginons ces moines de l'époque, hein, n'oublions pas que le monachisme est né en Égypte, mais avec des rameaux très très anciens dans la Syrie. Je pense aussi au monastère de Marmoussa, avec le père Paolo, qui a réussi à créer un ermitage. Donc là, c'est une extension jusqu'à notre époque, un monastère qui existe toujours. Et donc ces monastères du Tour Abdin, le mont Islo est pratiquement la première barrière montagneuse, donc une espèce de frontière naturelle en altitude. Donc très tôt, dès le 3e siècle, des monastères ont été construits à flanc de montagne, avec une vue exceptionnelle sur la plaine de Mésopotamie, la Mésopotamie entre les deux fleuves, donc le Tigre, l'Euphrate. L'Irak d'aujourd'hui, n'oublions pas que tous les grands fleuves de Mésopotamie prennent leur source en Turquie. Et ce sentiment inouï de toucher l'argile des civilisations, de toucher cette terre première où j'ai pu me déplacer en des temps où effectivement c'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui, et qui m'ont permis de rencontrer des personnalités exceptionnelles. des moines qui parlent encore en syriaque, des communautés. Je pense aussi aux communautés yézidis que nous pourrions mentionner en Irak, dans le Sinjar.
Absolument.
Alors qu'ils ne sont pas des chrétiens d'Orient, mais qui sont, comment dirais-je, apparentés dans cette grande famille historique.
Des minorités culturelles, oui, c'est ça.
Voilà, cette grande famille de minorités historiques qui ont pu survivre. Alors eux, c'est le culte du feu, le culte de l'eau, le culte des arbres sacrés. Et avec des traditions, finalement, que nous avons un peu oubliées en Occident, sauf des chercheurs. Hein. Beaucoup de chercheurs français travaillent sur ces domaines-là. Et toute cette expérience de terrain, en fait, qui a été ma grande chance, comme journaliste, comme chercheur, ont permis ensuite de nourrir mes interventions radiophoniques en invitant des personnalités qui travaillaient sur ces communautés. Mais moi, j'avais toujours cet avantage, avec eux d'ailleurs, de connaître in situ ces oui. communautés. Et ça, c'est vrai que c'est une grande chance.
Justement, vous devancez un peu ma question. Vous avez été le compagnon de route de ces communautés, même des moines du Mort Gabriel. Vous avez notamment participé à la restauration d'une mosaïque byzantine. Puis vous avez été attaché culturel à Chypre et vous travaillez désormais à Astana, au Kazakhstan. Alors honnêtement, Sébastien, qu'est-ce qui vous ressemble le plus aujourd'hui entre un bureau d'institut, une cellule monastique ou un bus de nuit entre Mardin et Diyarbakir?
Ah bah, quand je suis au bureau, je pense et je rêve d'une cellule monastique, hein, qui est une autre, un autre genre d'enfermement, mais c'est vrai que le travail personnel permet d'ouvrir grand les yeux sur ces réalités, tout en comprenant l'histoire. Vous savez, l'histoire est quelque chose dont on parle beaucoup. Toute notre époque ne serait pas compréhensible sans l'histoire, parce que beaucoup de peuples sont en quête de références identitaires. Donc très souvent, il y a une surenchère, hein, ce devoir de revendication, de dire on était les premiers là, mais en fait, il faut un peu plus de subtilité, un peu plus de vérité aussi. La vérité, c'est qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de mélanges, il y a eu beaucoup de passages de communautés à d'autres, il y a eu beaucoup de bouleversements, de déplacements de population. Donc c'est là où il est important d'écouter ce que les historiens ont à nous dire sur ces sujets-là. Et je crois que c'est une des missions que je me suis imposée, c'est-à-dire d'abord peut-être celle de l'humilité, c'est-à-dire de plus j'avais l'impression de comprendre, moins en fait je comprenais certainement ce qui se passait. Donc parfois il est très important, sinon urgent, de laisser la parole aux autres, tout en valorisant leurs travaux. Je pense à tous ces universitaires que j'ai reçus dans tout ce nombre d'émissions que vous avez mentionnées.
C'est ça.
Et qui chacun porte une voix unique, une voix essentielle. Mmh. Et une voix qui, dans le chaos et dans le brouhaha actuel, est parfois très peu entendue. Et c'est important, c'est très important de continuer.
Justement, Sébastien, vous avez recueilli des centaines de voix à ce micro. Est-ce qu'il y en a qui vous reviennent souvent ?
Ah bah oui, il y a des voix inoubliables. Il y a des voix qui, je pense à Naïd Termination, par exemple, qui a profondément marqué l'émission. Déjà à l'époque de mon prédécesseur, que je me permets de mentionner, Jean-Pierre Anquiri, qui a eu cette émission pendant près de 40 ans. Hein. N'oublions pas que vous avez le privilège et l'honneur de prendre en main une émission qui est certainement l'une des plus anciennes émissions du PAF, le paysage audiovisuel français. Ne l'oublions pas, ce qui montre aussi qu'il y a une persistance aussi dans notre république. Ben oui, d'une certaine manière, dans notre façon d'envisager les humanités. C'est une émission qui participe à ce devoir de connaissance, ce devoir de pédagogie, ce devoir d'informer le public, et surtout une émission comme beaucoup d'autres choses. Hein. Il n'y a pas que l'émission, bien entendu, mais qui est une passerelle essentielle entre le monde des savants, entre guillemets, ce monde des universitaires qui parfois n'est pas à l'aise pour parler à un plus grand public. Et bien notre devoir est de rendre cette parole intelligible d'une manière pédagogique pour un grand public, parce que ce sont des sujets qui intéressent et concernent tout le monde.
C'est ça. D'ailleurs, peut-être faudrait-il songer un jour à une publication d'un certain recueil d'émissions. Vous voyez, je pense que ça pourrait être un beau projet éditorial. Je lance ça dans l'air et nous verrons bien. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un souvenir que vous gardez de Chypre, où vous avez vécu quelques années avant de partir au Kazakhstan?
Bah, Chypre est une île merveilleuse et fort méconnue qui est au cœur de la Méditerranée orientale, une île qui est un conservatoire extraordinaire de la tradition byzantine avec les monts du Troodos, une dizaine de monastères qui sont référencés et protégés par l'UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité. Une île qui est importante aussi pour l'héritage un peu plus méconnu, mais tout aussi important des Lusignan, cette famille du Poitou qui a fait fortune après le royaume de Jérusalem, qui s'est réfugié à Chypre et qui a régné pendant pratiquement 4 siècles. Donc là, c'est assez phénoménal parce qu'on voit des monuments, des cathédrales, des églises qui sont des répliques, alors certes agrémentées de tout un héritage tiré du Levant, des expériences architecturales du Levant, dans la tradition des croisés, mais tout aussi un phénomène d'acculturation avec les traditions locales et qui existe toujours. Donc une cathédrale au bord de la mer, voilà, c'est possible de la voir à Famagouste ou à Nicosie, la cathédrale Sainte-Sophie, avec des fortifications. Donc un mélange entre Orient et Occident, c'est une formule qui est parfois un petit peu galvaudée, mais qui se trouve véritablement à Chypre. Je pense à ces icônes, à ces fresques qui sont dans la tradition byzantine, mais avec des influences occidentales. Alors d'abord françaises, très certainement, mais aussi italiennes, avec la présence de Venise qui a succédé à la présence française à partir de la fin du XIVe siècle jusqu'à la présence ottomane en 1571 avec la prise de Famagouste. Mais une histoire qui continue jusqu'à nos jours, voilà, avec tout un tas de communautés qui se retrouvent. On peut penser aux Arméniens, on peut penser à l'Église latine qui est présente aussi à Chypre. Donc c'est véritablement un point de vigile, si on peut le dire ainsi, de l'Europe chrétienne, matinée d'orthodoxie, matinée de tradition levantine en regard du Proche-Orient.
Et maintenant, vous implantez donc à Astana, au Kazakhstan, donc en Asie centrale. Et est-ce que vous avez l'impression d'être toujours dans ce rayon large, je ne sais pas s'il faut dire oriental ou ottoman, des christianismes, où vous avez vraiment mis là le pied dans un monde nouveau?
Alors votre question est très intéressante parce que moi qui découvre un pays en pleine construction, un pays qui a une dynamique très forte, moi je retrouve ce voyage que j'avais fait au tout début des années 2000 où j'étais parti d'Istanbul jusqu'à Pékin sur les routes de la soie, hein, il faut le dire au pluriel. Je pense à la figure de Guillaume de Rubruck qui est ce voyageur exceptionnel qui était déjà un ambassadeur du roi Saint-Louis auprès du grand Khan des Mongols, donc ces peuples de la steppe qui ont conquis une partie du Proche-Orient et qui sont arrivés même jusqu'en Europe orientale. Il y avait des chrétiens parmi eux, il y avait des communautés chrétiennes, il y avait ce qu'on appelle les Nestoriens. Alors c'est une communauté qui ne s'appelle plus maintenant les Nestoriens, on appelle ça l'Église de l'Orient, une communauté chrétienne qui existe toujours, dont le siège est à Bagdad, après des périples et des massacres et des mouvements dans l'histoire assez conséquents. Je retrouve d'une certaine manière cette temporalité de la steppe, celle du nomadisme, celle de la légèreté d'un christianisme qui était celui de la bonne parole. Très souvent, les moines étaient aussi les moines ou les prêtres étaient souvent des marchands. Donc ils portaient leur foi avec des caravanes, avec toutes ces chemins de traverse pour arriver jusqu'en Chine. L'objectif était quand même la Chine, donc dans la tradition de ce premier voyageur qui était le moine Alopen, arrivé dans la Chine des Tang au 7e siècle.
638 précisément.
Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce christianisme a essaimé. Vous connaissez l'histoire de l'oncle d'Amérique qui a fait fortune et qu'on a oublié. Pour l'histoire du christianisme extrême oriental, c'est un petit peu la même chose. Donc après le 7e siècle, certainement avec d'autres vagues missionnaires qui ont continué, on retrouve à l'époque de Marco Polo, donc au 13e siècle, des communautés chrétiennes d'Orient en Chine établies en Mongolie aussi, Mongolie intérieure, et qui reviennent au Levant, j'allais dire en Occident, mais non, au Levant, dans les bagages des conquérants mongols. Et on réalise à cette époque-là que beaucoup de... C'est une religion qui se transmettait par les femmes principalement, que certaines tribus turciques avaient été converties au christianisme. Un dernier point, si vous me permettez, Ulysse Manès, sur
oui,
cette...
Il nous reste très peu de temps, mais avec plaisir.
Sur cet aspect, c'est l'histoire de Rabban Soma, qui est ce moine turc qui a apporté le christianisme, voilà, et dont on a eu des nouvelles à l'époque des croisades, et qui a permis de faire connaître justement cette épopée.
J'avais prévu plein de petites questions, Sébastien, vous en doutez bien. Je voulais vous demander si on peut aimer l'Orient sans l'orientaliser. Je voulais vous demander s'il y a un livre sur les chrétiens d'Orient que vous recommandez sans hésiter. Peut-être vous pouvez me donner un titre là.
Écoutez, oui, la littérature est nombreuse. Je serais tenté de parler de La Marche et le Sacré, qui est mon dernier livre, si vous me permettez.
Ben voilà.
Cette absence de modestie, mais voilà, je crois qu'on peut en parler, La Marche et le Sacré.
Je l'ai sous les yeux.
Voilà.
Voilà, je le recommande aussi.
Et sinon, vous dire tout le bonheur que j'ai eu, et je vous souhaite vraiment une belle continuité. Je vous souhaite beaucoup de chance. C'est une expérience passionnante.
Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez, cher Sébastien, pour conclure, je vous laisse le micro et vous dites un mot de conclusion pour vos auditeurs et vos auditrices.
Vous dire tout le plaisir que j'ai eu pendant ces 14 années à savoir écouter par un public de grande qualité. Ce sont beaucoup de lettres que l'on reçoit après les émissions, des émissions toujours qui ont un impact. Je sens que voilà, il y a tout un tas de publics qui sont intéressés, intéressants et curieux. Voilà, l'aventure des chrétiens continue. Grâce à vous, cher Ulysse Manès, et grâce à France Culture et toute l'équipe de Chrétiens d'Orient.
Merci Sébastien de Courtois pour ce passage de flambeau qui me touche beaucoup. Merci de nous avoir parlé depuis Astana, à la fois de si loin et de si près. Et comme un clin d'œil, nous allons nous quitter non pas sur mon générique, composé par le talentueux David Federman, mais sur le vôtre, celui que vous avez laissé dans des oreilles de milliers d'auditeurs. C'était Chrétiens d'Orient. Une émission d'Ulysse Manès, réalisée par François Connac, coordonnée par Claire Poinsignon, à la technique aujourd'hui Bastien Varigaud. Merci beaucoup, à très vite et bon dimanche.